Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, on continue de se soigner, mais grâce aux nouvelles technologies. Bonjour Judith Bregman.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à vous.
Bienvenue, vous êtes journaliste au Parisien Week-end, vous publiez en partenariat avec RTL un article sur la chirurgie augmentée. Alors c'est quoi ça? En quelques mots, puisqu'on va détailler après.
La chirurgie augmentée, c'est un ensemble de technologies qui vont augmenter les capacités du chirurgien en lui donnant en quelque sorte des super pouvoirs qui vont augmenter la finesse de son geste. Donc ça recouvre trois aspects différents. Premièrement, c'est l'œil augmenté. En chirurgie augmentée, le praticien il devient une sorte de super-héros parce que finalement, il va voir littéralement à travers le corps de son patient, ce qui est un peu le rêve absolu pour n'importe quel chirurgien. Et donc à partir du scanner du patient, on va utiliser des algorithmes sophistiqués, il y a une espèce de guerre industrielle autour de ça, qui calcule une représentation en 3D de l'intérieur du corps du patient.
Donc il voit l'intérieur du corps en 3D, on est bien d'accord?
Alors oui, il va pouvoir...
Donc ça c'est l'œil, pardon mais il faut avancer un peu.
Non, c'est pas l'œil.
Alors c'est quoi ça?
C'est
parce que je me suis un peu perdu là.
Ouais.
Donc vous nous avez dit la chirurgie augmentée ça passe par quoi? Ça passe par l'œil.
Ouais, donc il y a l'œil.
Il y a quoi ensuite?
Il y a la main augmentée avec des instruments qui vont devenir de plus en plus intelligents. Bientôt on va avoir des robots de nouvelle génération qui vont intégrer cette image 3D. Donc ça va être un petit peu comme s'ils avaient à leur disposition un GPS pour se repérer à l'intérieur du corps.
Ouais.
Et la troisième chose, c'est l'intelligence augmentée, puisque le chirurgien, il va avoir accès au bloc, sur écran et de façon complètement stérile à toutes sortes d'informations dont il pourrait avoir besoin pendant l'opération. Le but du jeu, c'est que le chirurgien ne se trouve plus jamais en situation d'échec pendant une opération, ce qui lui fait perdre du temps et prendre des risques.
Restez avec nous sur RTL. Un chirurgien masqué vous donne rendez-vous dans un instant dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? C'est reconstruire en trois dimensions ce qu'on appelle, nous, le clone digital du malade.
La curiosité est un vilain défaut.
En 2001, Jacques Maresco réussit un véritable exploit. Assisté d'un robot, il opère à distance, depuis New York, une patiente située à Strasbourg.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Preuve de l'introduction de l'informatique dans le monde chirurgical.
Jusqu'à 15h sur RTL.
On se croirait dans un film de science-fiction et pourtant c'est déjà la médecine d'aujourd'hui que l'on découvre sur RTL avec la journaliste du Parisien Week-end, Judith Bregman. Vous publiez en partenariat avec RTL un article sur donc cette chirurgie augmentée et notamment une première mondiale qui est prévenue la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous la détailler? Quand et par qui sera-t-elle réalisée?
Alors, la semaine prochaine, donc le 5 décembre, à l'hôpital Avicenne à Bobigny, c'est le docteur Thomas Grégory, qui est en fait le chef du service de traumatologie et d'orthopédie de l'hôpital, qui va réaliser pour la première fois une opération d'installation d'une prothèse d'épaule avec un casque de réalité augmentée HoloLens de Microsoft.
HoloLens, donc qu'est-ce que ça lui apporte? Imaginons, on est à la place du chirurgien, qu'est-ce qu'il va voir là dans ce casque?
Alors, il va voir plein de choses. Il faut bien distinguer d'abord réalité augmentée et réalité virtuelle. Là, on est vraiment dans une technologie qui permet de voir l'environnement et de voir plus que l'environnement. Alors, en réalité virtuelle, on est dans une immersion totale en dehors de l'environnement. Là, il va continuer à voir la pièce et puis le patient réel qui est devant lui. Et par contre, à l'intérieur du casque, il va avoir sur un écran de la taille à peu près d'une feuille au format A4, il va avoir toutes sortes d'informations dans lesquelles il va pouvoir naviguer. Donc déjà, il va avoir une représentation 3D de son patient, de l'organe éventuellement sur lequel il va intervenir.
Qui peut faire tourner comme ça, à la demande?
Exactement, c'est un hologramme, c'est très marrant.
Mais il fait comment pour le faire tourner? Il donne des ordres à son casque, à son masque? Ça se passe
alors,
comment?
Il peut lui parler, effectivement, mais il a deux gestes principaux, en fait. Quand il va pincer le pouce et l'index, ça va lui permettre de sélectionner un item. Et quand il va, au contraire, ouvrir les doigts, il va revenir au menu principal. Et à partir de là, il va pouvoir aussi, donc il va ouvrir un hologramme, et puis par exemple, il va dire agrandir l'hologramme. Et là, il va pouvoir accéder à des représentations très détaillées, par exemple du réseau vasculaire d'un organe, voilà, qui vont lui permettre d'avoir un geste beaucoup plus précis.
Oui, c'est ça, on imagine une opération d'une tumeur, par exemple, ça permet de de ne retirer que ce qu'il faut retirer, être encore plus précis qu'on pouvait l'être auparavant ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, alors là, ça fait déjà quelques années qu'avec la chirurgie mini-invasive, l'endoscopie, fibroscopie, on est beaucoup plus conservateur en chirurgie. Mais c'est vrai qu'avec les simulations 3D, on va atteindre un niveau de précision qu'on ne peut pas atteindre avec l'œil humain. C'est tout le sens de l'expression chirurgie augmentée.
Judith Bregman, alors on se projette le 5 décembre prochain. Cette première mondiale est réalisée par un chirurgien français. Est-ce qu'elle sera suivie ailleurs dans le monde? On attend tout ça avec impatience.
Alors c'est l'un des enjeux effectivement de cette opération qui est un petit peu un coup médiatique donc pour faire parler de la technologie et faire un petit peu avancer les choses parce que c'est très prometteur. Et donc le docteur Thomas Grégory, il va montrer certains gestes chirurgicaux inédits et il va les montrer à des chirurgiens qui seront aux États-Unis, en Corée et au Japon, je crois.
Donc on est plus dans une logique de partage que de concurrence, si j'essaye de comprendre ce que vous nous dites.
C'est-à-dire que... Alors, c'est un marché très concurrentiel.
C'est une démonstration pour vendre le casque HoloLens, bien sûr, même si c'est un progrès médical.
Alors, pour vendre le casque HoloLens, peut-être, mais surtout pour booster un petit peu le développement d'applications dans le secteur médical et chirurgical. Parce que le casque HoloLens en lui-même, ce n'est pas du tout un dispositif médical, ce n'est pas homologué en tant que tel. C'est simplement un très bel outil que des chirurgiens, par exemple, vont pouvoir s'approprier, des passionnés vont pouvoir s'approprier et développer des applications spécifiquement pour le domaine chirurgical.
Vous écoutez RTL.
Ça aussi, ça nourrit l'espoir. La 3D au service de la médecine, c'est ce que l'on découvre sur RTL avec nos partenaires du Parisien Week-end et la journaliste Judith Bregman. Alors dans votre article, vous nous emmenez aussi à Strasbourg pour découvrir un bloc opératoire hybride. À quoi ressemble-t-il ?
Alors, le bloc hybride, c'est un équipement qui est unique au monde. C'est pourquoi hybride ? Parce que donc on va mêler à la fois la chirurgie et la radiologie avec les équipements les plus en pointe qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Donc c'est très grand, c'est très vaste. Il y a deux pièces. Il y en a une où vous allez avoir un scanner, un échographe, un IRM. Et vous allez avoir une machine qui est très particulière, qui s'appelle un Zygo et qui est capable de faire en une seconde le tour complet à 360 degrés du patient pour obtenir une représentation 3D des organes internes du patient. Et puis donc à côté de ça, vous avez une pièce, vous avez un bloc opératoire robotisé, donc avec un robot Da Vinci.
Alors on va justement parler tout de suite au téléphone en direct avec le professeur Jacques Marescot qui est à l'origine en quelque sorte de cet équipement qui est vraiment en avance et dans cette émission on est heureux parce que là avec ce thème de la chirurgie augmentée on met vraiment à l'honneur les chirurgiens et les médecins français qui sont en avance. Jacques Marescot, vous êtes avec nous en direct de Hong Kong, donc j'espère que la liaison sera de qualité.
Bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que ça vous apporte toute cette technologie dans votre geste de chirurgien?
Ah, écoutez, si vous voulez, c'est un rêve qu'on développe depuis maintenant 20 ans, qui en fait est copié de ce que les neurochirurgiens avaient imaginé dans les années 92, c'est-à-dire de voir en transparence et de voir à l'intérieur du cerveau. Et en fait, le concept, bon, ça va au-delà du casque de réalité augmentée dont on a parlé tout à l'heure, ce qui c'est génial parce que ça fait maintenant comprendre et sensibiliser le monde chirurgical à cette révolution qui arrive. Mais en fait, la chirurgie, c'est plus que ça, c'est plus que la vision. La chirurgie augmentée, c'est l'augmentation de l'œil pour le chirurgien, c'est l'augmentation de la capacité de la main et c'est l'augmentation de la capacité du cerveau. Et ça, c'est la réalité augmentée pour la vision, la robotique intelligente pour le geste et puis l'intelligence artificielle pour une meilleure stratégie et une adaptation pendant l'opération. Et le tout va faire un robot intelligent qui, dans les années qui viennent, certainement sera autonome.
Jacques Marescot, l'intelligence artificielle change tout. C'est comme si vous opériez avec l'expérience de millions d'autres chirurgiens, c'est ça ?
Ah oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que quand le monde médical ou chirurgical, qui est un peu conservateur, dit que ça ne remplacera jamais l'expérience d'un médecin ou d'un chirurgien, c'est oublier que l'intelligence artificielle, elle va mettre ensemble l'expérience de millions de médecins ou de chirurgiens. Et quand vous regardez qu'actuellement, sûrement celui qui est en avance, qui est l'intelligence artificielle de IBM, qui s'appelle Watson, qui peut analyser en quelques secondes 4000 livres et 150 000 articles de la littérature mondiale, je ne sais pas si vous imaginez, c'est quelque chose qui est impossible pour le cerveau humain. Et donc ça va aider la stratégie pour avoir la meilleure indication chirurgicale. Et on sait tous que l'indication chirurgicale, c'est au moins aussi important que le geste chirurgical, que l'opération elle-même.
Est-ce qu'il y a une place, pardon, la question est peut-être totalement d'un béotien, peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour l'intuition? Et est-ce qu'il faut qu'il y ait de la place pour l'intuition chez un chirurgien?
Alors, je ne sais pas ce que vous appelez l'intuition ou le sixième sens, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle le rapport singulier que le chirurgien va avoir avec son malade avant. Et ça ne change rien à la technologie. Vous avez des technologies fantastiques, ce dont on est en train de parler, le 3D, la robotique, l'intelligence artificielle. Mais savoir par contre quelle est la meilleure opération qu'il va falloir proposer à un malade, c'est au-delà pour l'instant de ce que l'intelligence artificielle va pouvoir nous donner, parce que il y a la considération de la personne elle-même, de son caractère, de la qualité de vie qu'il veut avoir après l'opération. Donc il y a sûrement une place pour ce que vous appelez l'intuition.
Grâce à cette révolution, Jacques Maresco, est-ce qu'un chirurgien pourra aussi superviser plusieurs opérations en même temps à des milliers de kilomètres de distance?
Alors, bon, chirurgien, c'est sûrement pas demain. Par contre, il y a des métiers comme le radiologue, c'est évident. C'est-à-dire que quand vous regardez actuellement la puissance que va avoir l'intelligence artificielle pour faire des diagnostics radiologiques, vous imaginez que le métier de radiologue va changer et que le radiologue, dans un gros cabinet, sera plutôt comme un chef d'orchestre avec une quinzaine d'ordinateurs qui eux-mêmes vont analyser extrêmement rapidement pour donner le diagnostic. Pour la chirurgie, je pense que bien sûr, tout est possible à distance, et vous le savez bien, même le geste à distance, mais je ne pense pas que le chirurgien va prendre son pied à être le chef d'orchestre de 15 interventions chirurgicales en même temps. Je ne pense pas que c'est l'avenir de la chirurgie.
D'un mot, Jacques Maresco, pour bien prendre conscience de ce que ça représente au niveau mondial, vous présidez l'IRCAT, c'est l'Institut de Recherche contre les Cancers Digestifs, qui est donc basé à Strasbourg, mais ce savoir-faire, cette technologie, vous l'avez déjà exporté dans plusieurs villes dans le monde, c'est ça?
Oui, alors donc il y a à la fois l'IRCAD et l'Institut de chirurgie guidée par l'image qu'on a créé maintenant il y a 4 ans dans le cadre des projets IHU. Et maintenant, on a fait des instituts miroirs. On en a à Taïwan, on en a à Sao Paulo, on en a à Rio de Janeiro, on en a à Taïwan, et on va en avoir un au Rwanda, ça vous paraît peut-être bizarre, mais l'Afrique est en train de vraiment vouloir sauter des étapes et rentrer dans le monde technologique. Et le président du Rwanda est un visionnaire technologique où tout le monde a son iPhone, les banques sont virtuelles. Et donc, de temps en temps, il faut avoir beaucoup d'humilité pour se dire que l'Afrique, très certainement, dans les 20 années à venir, va être un partenaire extrêmement important pour nous.
Merci beaucoup, Jacques Maresco, et bon retour à Strasbourg.
Je vous en prie.
Sur RTL, on continue de découvrir cette chirurgie incroyable et notamment la précision d'un robot utilisé en Picardie. Direction Amiens dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
Rosa, c'est un robot pour la neurochirurgie. Plus précisément, c'est une espèce de GPS de chirurgien.
RTL.
Le robot va guider et assister le chirurgien dans la réalisation de l'acte chirurgical.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À ce jour, c'est près d'une vingtaine de machines installées dans différents pays.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Et cette chirurgie qui fait appel à la nouvelle technologie, elle existe déjà, vous l'avez compris, et on la découvre grâce à Judith Bregman, journaliste au Parisien Week-end, qui publie un article sur ce thème en partenariat avec RTL, et donc notamment un gros plan sur ce robot, on vient d'en entendre parler, le robot Rosa. Alors là, on est en Picardie.
Alors, c'est encore une occasion de pousser un petit cocorico, parce que le robot Rosa, c'est un robot français, donc développé par une société qui s'appelle MedTech. Il fait partie des 5 robots au niveau mondial qui sont autorisés à participer à une opération. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu différent par rapport à des robots comme Da Vinci qui vont vraiment participer aux gestes opératoires avec des bras robotisés. Là, c'est un robot qui, en fait, est un robot d'assistance et de guidage pour repérer vraiment précisément avant le geste manuel du chirurgien.
C'est sa précision qui est hors norme, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va, il va calculer des points de repère. Alors, pourquoi on a besoin de lui spécifiquement là, en particulier en neurochirurgie, et puis aussi dans certaines chirurgies de la colonne vertébrale, tout simplement parce que il y a un risque de toucher les nerfs, le cerveau. Donc, il faut être extrêmement précis. On n'a pas du tout droit à l'erreur. Donc, c'est une aide précieuse.
Le robot Rosa, derrière lui, il y a évidemment un chirurgien qui s'appelle le docteur Desroussin. Alors, vous ne l'avez pas rencontré, vous ne l'avez pas interviewé, mais est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ça change pour lui ? C'est-à-dire qu'il fait confiance au robot pour lui donner le lieu, le point précis où agir ? Comment ça se passe ? Cette interaction, vous voyez ce que je veux dire, entre l'homme et la machine ?
C'est une histoire de planification. C'est-à-dire que c'est vraiment... souvent, les chirurgiens, ils aiment bien se comparer aux pilotes d'avion. Là, on est typiquement face à une machine qui va permettre aux chirurgiens de préparer à la virgule près le protocole opératoire. Donc, il y a eu une opération récente au CHU d'Amiens, effectivement, sur un petit garçon de 6 ans où il fallait. Il y avait une scoliose qu'il fallait instrumentaliser. Et donc, l'os était très petit, il y avait un morceau du sacrum qui faisait 8 mm de large, et il fallait implanter une vis de 7 mm dans cette partie de l'os.
Et il a pu réaliser ça.
Grâce au robot. Voilà, on est obligé de vous interrompre parce que l'heure a filé. Merci beaucoup, Judith Breckmann. Désolé de cette interruption. En tout cas, votre article est passionnant et en entier, il est à lire dans le Parisien Week-end et c'est en partenariat avec RTL. Merci.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
À la maison, sur la route, au bureau, dans vos ateliers, dans les champs, où que vous soyez, vos témoignages sont chaque jour le cœur d'On est fait pour s'entendre. L'émission qui vous rassemble, c'est de 15h à 16h en direct sur RTL.
Vous écoutez RTL.